toi qui nous as aimés en premier. Tu nous as aimés en premier, Seigneur. Et parce que tu nous as aimés, tu es venu dans ce monde autant marqué par Dieu. Tu es venu dans ce monde autant choisi par Dieu, suivant le plan divin qui a été établi dans l'éternité. Tu es venu dans ce monde, Seigneur, pour apporter quelque chose de nouveau, pour apporter quelque chose de parfait, pour apporter quelque chose qui sera pour nous et qui est pour nous l'espérance même et la vie. Seigneur, c'est pour cela, parce que tu nous as aimés le premier et que par tes œuvres de sacrifice, d'amour, tu nous as prouvé que tu nous aimais et que tu ne voulais pas nous abandonner. Seigneur, nous t'avons trouvé. Plutôt, c'est toi qui nous as trouvés, Seigneur. Et tu as mis cet amour dans nos cœurs. Car par nous-mêmes, nous étions incapables d'aimer, Seigneur. Nous étions incapables de t'aimer, Seigneur. Mais tu nous as trouvés. Et Seigneur, nous avons répondu à ton appel. Merci pour ce privilège. Merci, Seigneur, pour cette joie immense de te connaître et de marcher sur ce chemin. Tu nous parles maintenant, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire. Jésus, merci. 365 jours viennent de se passer. Tout cela est derrière nous. Nous regardons tout cela derrière nous. Et puis, d'un autre côté, nous regardons le futur sans pouvoir le voir. Quand on dit qu'on regarde le futur, c'est un langage imagé puisque le futur nous est caché. Mais ce futur est entre les mains de Dieu. Et dans ce futur, nous espérons pour le meilleur. Nous espérons pour quelque chose de nouveau. Nous espérons pour un progrès, que ce soit pour notre pays, que ce soit pour notre famille, que ce soit pour nos professions, quelles qu'elles soient dans la société. Nous sommes tous à espérer pour quelque chose de meilleur, quelque chose de nouveau. Nous ne voulons pas la routine, nous ne voulons pas le statu quo, nous ne voulons pas quelque chose qui ne bouge pas, car en réalité, ce n'est jamais que ça ne bouge pas, soit on avance, soit on recule, que ce soit dans la vie professionnelle ou que ce soit dans la vie spirituelle. Il y a et il faut une croissance continuelle. S'il n'y a pas de croissance, il y a recul. Et pour nous, quelle est notre perspective vis-à-vis des 365 jours qui sont devant nous? Nous ne pouvons savoir ce qui va se passer, mais nous ne pouvons que espérer. Et nous savons que notre espérance n'est pas vaine si nous connaissons Jésus-Christ. Nous savons que notre espérance est une espérance glorieuse parce que en lui, avec lui, nous sommes assurés pour l'éternité. Nous sommes assurés pour une vie meilleure. Nous sommes assurés pour une vie éternelle. Quand cela viendra-t-il? Nous l'avons déjà en nous. Virtuellement, cette vie éternelle est en nous depuis le jour où nous avons cru. Cette vie éternelle, nous la possédons. Elle est en nous. Il a mis en nous quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Mais ce quelque chose est enfermé dans un vase de terre. Et bientôt, ce vase de terre, soit il se cassera, et la valeur qu'il y a à l'intérieur s'en ira vers lui dans la gloire, soit alors, il reviendra et transformera ce vase de terre pour donner un corps merveilleux, un corps spirituel. Devant nous, nous avons une perspective merveilleuse. Nous ne sommes pas ignorants quant à notre futur. La parole de Dieu nous parle beaucoup de notre futur. Et nous croyons à ce qu'il y a de meilleur devant nous. Dans un premier temps, nous ne pouvons pas nous attendre à beaucoup de meilleur dans cette terre, à travers ce monde où les hommes vivent que pour la chair, pour la convoitise, pour les choses du monde et pour la vanité. Non, dans ce monde, que pouvons-nous trouver de meilleur? Nous pouvons espérer d'avoir un temps de paix, d'avoir un temps d'équilibre. Nous pouvons espérer. Mais, frères, sœurs, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Nous savons que le jugement de Dieu vient sur les hommes rebelles. Et si les hommes sont rebelles, que peuvent-ils espérer de meilleur? Mais si nous avons cru, quels que soient les événements de cette terre, événements malheureux, guerres, épidémies, tremblements de terre, que sais-je encore, cataclysmes de tout genre, nous avons dans notre cœur une espérance merveilleuse. Nous avons quelque chose qui maintient en nous la paix, la joie, le bonheur, la félicité, car nous sommes réconciliés avec Dieu et nos yeux sont sur cette éternité qui vient. Frères, sœurs, sachons faire face à la réalité. En Jésus seul, il y a du meilleur. Il y a du meilleur. J'aimerais lire avec vous ces quelques passages qui se trouvent dans Luc. Luc au chapitre 5, à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Luc 5, 33. Il est écrit, « Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole, « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. » Le morceau n'est pas assorti au vieux. Il y a le vieux, il y a le nouveau. Il y a l'ancien, il y a le nouveau. Et c'est ça que les pharisiens, les scribes ne pouvaient pas accepter. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Pourquoi les disciples ne suivent pas la tradition? Pourquoi tes disciples font-ils autrement? Telle est la question des Juifs à Jésus. Ils sont troublés par le message et l'attitude de Jésus et de ses disciples. Autrement dit, pourquoi ne suivez-vous pas la tradition et voulez-vous changer les choses? Voulez-vous tout bouleverser? Ce qui est reconnu selon l'ordre établi. Il y a un ordre établi. Il y a une tradition. Et vous, vous venez tout bouleverser cette tradition. Combien de fois nous-mêmes, nous sommes complètement bloqués et enfermés dans nos traditions, dans nos coutumes, dans ce que nous croyons être bien de faire, de ce que nous croyons être une façon civilisée de se comporter, et nous sommes bloqués dans un certain comportement, un comportement qui nous a été imposé par notre famille, par notre tribu, par notre nation, que sais-je, une façon de voir, et nous sommes allergiques à tout changement. Frères et sœurs, ce que nous voulons en cette année qui s'ouvre devant nous, c'est un véritable changement, non seulement un changement politique, un changement économique, mais un changement moral, un changement spirituel, un changement individuel, un changement de l'homme, l'homme qui croit en Dieu et qui veut se conformer aux commandements de Dieu et vivre selon les commandements de Dieu et la loi de Dieu. Un changement, ce n'est pas des chrétiens qui vivent dans le monde comme ils veulent et qui le dimanche vont à l'église pour se tromper eux-mêmes que soi-disant tout est bien et qui font leur devoir religieux. Si de venir à l'église c'est un devoir, eh bien vous êtes des pauvres malheureux. Je viens pas à l'église par devoir, je viens à l'église par plaisir, parce que là je rencontre Dieu et j'ai besoin d'avoir communion avec lui. J'ai besoin de la communion fraternelle et j'ai besoin de tous les bénéfices que Dieu veut et désire donner à ceux qui marchent et qui le suivent et qui marchent en intégrité et en obéissance avec lui. Mais voilà combien d'entre nous, nous sommes allergiques au changement. Il faut une innovation, il faut un changement. Ne vous plaignez pas pour les changements que Dieu veut faire. Combien de fois des hommes de Dieu ont voulu marcher dans un chemin qui leur a été tracé par le Dieu vivant, mais les chrétiens bien pensants se sont élevés contre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient rester dans leur tradition séculaire, un protestantisme mort, un catholicisme sans vie, une religion sans puissance, une religion traditionnaliste. Eh bien, nous disons non, nous voulons revenir à la parole de Dieu, nous voulons revenir à la vérité révélée, nous voulons le changement, un changement qui nous mènera vers la perfection. La perfection ne peut jamais être changée parce qu'elle est parfaite, mais nous, personne n'est parfait. Et là, il doit y avoir un changement. Et ce changement doit continuer dans notre vie personnelle, dans notre vie nationale, dans notre vie quelle qu'elle soit. Oui, frères et sœurs, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. C'est ce que disaient de Paul et Silas, ces hommes, là, dans ces villes où ils prêchaient l'Évangile. Ils disaient dans Actes 16, 20, « Ces hommes troublent notre ville. » Ils troublent notre ville. Pourquoi ? Parce qu'ils enseignent quelque chose duquel nous n'avons pas l'habitude. Ils enseignent un Dieu unique, alors que nous croyons dans des dieux multiples. Ils enseignent de nouvelles doctrines. Gloire à Dieu ! Si ces doctrines sont ancrées sur la parole de Dieu, quel changement peut-on faire ? Appliquons cette parole à nos cœurs, mais pour l'appliquer, il faut la lire. Ces gens nous dérangent avec de nouvelles idées. Voilà ce qu'ils ont dit. Ces gens nous dérangent. Nous ne voulons rien changer. Nous voulons rester dans nos traditions. Nous voulons rester dans nos habitudes. Nous voulons rester dans notre routine. Nous voulons rester tel que nous sommes. Eh bien, si vous restez tel que vous êtes, il n'y a pas d'espoir. Il faut un changement. Et ce changement commence par le brisement au pied de la croix. La plupart des hommes sont réfractaires au changement. Ils sont réfractaires à ce qui est nouveau. Il existe une loi du changement qui nous oblige de briser le système en place duquel nous sommes habitués. Voilà. Celui qui ne veut pas de changement, il va végéter et on va le piétiner. Frères et sœurs, que ce soit dans l'église ou ailleurs, il va végéter et tous vont le piétiner. Les générations montantes, la jeunesse montante veut voir quelque chose. Ils veulent un changement. Voilà. Et si toi, vieux, aux cheveux blancs, tu veux rester tel que tu es, tu veux rester statique et tu veux t'opposer à tout, sache que cette génération montante te piétinera et t'oubliera parce que tu as été opposé à quelque chose de meilleur. Et croyez-moi aujourd'hui, un homme aux cheveux blancs vous prêche quelque chose de meilleur. Il n'est pas là pour vous dire que tel que vous êtes, cela suffit. Il est là pour vous dire, avancez, progressez, cherchez, vous trouverez, progressez avec Jésus-Christ. Je ne dis pas que nous sommes arrivés à la perfection. Je ne dis pas que l'église de la borne est la meilleure église. Oh non, non, non. Mais l'église de Jésus-Christ, là où il habite, c'est la meilleure église. Et cette église va aller de l'avant en conquérant des territoires pour sa gloire. Frères et sœurs, avançons, que nous soyons vieux ou que nous soyons jeunes, avançons. Seul Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Pourquoi Dieu ne change pas? Parce qu'il est parfait. Parce qu'il est parfait. Rien ici-bas n'est parfait. Tout doit évoluer vers le meilleur ou vers le pire. Ici-bas, sur la terre, rien n'est parfait. Tout doit évoluer. Mais le meilleur des hommes n'est jamais parfait. Vous m'entendez? Le meilleur des hommes n'est jamais parfait. C'est la raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, ce que nous devons faire, c'est continuer, malgré tout, nous perfectionnant, nous sanctifiant de plus en plus, jamais satisfait, jamais content de soi-même, jamais prêt à s'asseoir pour dire, voilà, je suis arrivé. Non, tu n'es pas arrivé. Loin de toi ces pensées d'orgueil. Oh, mon frère, qui que tu sois, sois toujours anxieux d'aller de l'avant, de connaître plus Jésus-Christ, d'avoir plus de communion avec lui et de faire ce qu'il veut que tu fasses, sa volonté. Nous devons cesser de discuter en vain. Nous devons casser ce que nous avons créé afin que nous puissions créer du nouveau, créer du meilleur, basé sur l'expérience venue de l'ancien. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, dans notre monde, il y a toujours une progression, mais cette progression est basée sur l'ancien. Regardez les premières voitures qui sont sorties en 1930. Tout le monde pensait que c'était des voitures extraordinaires. Aujourd'hui, on en rit. La fameuse Ford T, vous connaissez ça. Aujourd'hui, on en rit. Eh bien, si on a des voitures perfectionnées aujourd'hui, c'est à cause de ce commencement. C'est à cause de ce commencement. Et dans toutes les générations, si vous voyez les premiers avions, c'était comme des cages à poules volantes. Mais regardez les jets qu'on a aujourd'hui. Comment ce progrès a été fait? Sur la base de l'ancien. Sur la base de l'ancien. Ne méprisez pas l'ancien, mais vous tâchez de faire mieux que l'ancien. Voilà. L'ancien, bon, mais le nouveau sera meilleur à cause de l'action de l'ancien. Le bon bâti, le meilleur bâti sur l'ancien. L'ancien qui a ouvert les portes, l'ancien qui a donné le départ, à cause de l'expérience qui a permis que l'ancien soit amélioré. Frères et sœurs, nous devons être des gens décidés à avancer. Vous êtes jeunes, gloire à Dieu. Ne gaspillez pas votre jeunesse. Tâchez de faire mieux que moi. Tâchez de faire mieux que moi. Et quand je verrai que vous faites mieux que moi, je me réjouirai. Seigneur, ça valait la peine. Frères, sœurs, je vous en supplie. Loin de nous de vouloir jalouser celui-ci ou jalouser celui-là. Loin de nous de vouloir nous mettre en avant. Nous devons faire ce que Dieu nous demande avec fidélité. Et nous serons alors des exemples pour les autres. Toi, jeune homme, sois un exemple pour l'autre. Toi, jeune fille, sois un exemple pour l'autre. Un exemple digne d'être suivi. Un exemple dans lequel il y a l'empreinte de Jésus-Christ. La loi de Moïse ne demandait que le jeûne annuel au jour des expiations. La loi de Moïse demandait le jeûne annuel au jour des expiations. Mais les Juifs pieux de ce temps de Jésus, voulant mériter le salut par les œuvres, ont ajouté beaucoup de jeûnes dont la loi de Moïse n'a même pas parlé. Elle ne demande pas. Et ils ont fait cela en ajoutant comme une tradition, comme une certaine marque extérieure devant les hommes de leur spiritualité artificielle, je dis bien, d'une spiritualité artificielle. Vous savez qu'on voit aujourd'hui encore dans l'Église des hommes et des femmes qui cherchent à avoir une spiritualité super spirituelle. Eh bien, ceux-là sont artificiels. Et en plus de cela, il se vantait, je jeûne deux fois par semaine. Ce changement, cet additif qu'ils ont apporté à la loi de Moïse, d'accord, c'est nouveau, mais avec de fausses motivations et beaucoup de vanité. Donc, le nouveau qu'ils voulaient apporter était nul. Il est bien dit que personne ne doit ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu, que personne n'est autorisé à ajouter, à retrancher quoi que ce soit ou à modifier quoi que ce soit dans la parole de Dieu. Cette parole est parfaite. Cette parole est parfaite. Voilà ce qui est écrit dans Apocalypse 22, verset 18. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte qui est décrite dans ce livre. Ces hommes ont ajouté quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui ne venait pas du parfait, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si on veut apporter quelque chose de nouveau, ce quelque chose doit rester dans le cadre et le contrôle de la parole de Dieu. Cette parole est parfaite et vous ne pouvez rien y ajouter. Rien. On ne peut rien ajouter à ce qui est parfait. Vous m'entendez? Si vous considérez que la parole de Dieu est parfaite, alors n'essayez pas de retrancher à cette parole ou d'ajouter quoi que ce soit. Il est possible que vous ne compreniez pas tout ce qu'elle dit. Mais faites attention de ne pas supprimer ce qu'elle dit et de ne pas y ajouter. Les pharisiens qui prient dans la synagogue veulent se faire voir, veulent se faire voir comme celui-ci qui priait dans la synagogue dans Luc 18, 12, qui se vantait et il disait au Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, je jeûne deux fois par semaine, je donne ma dîme, et l'autre, le péager, se frappait la poitrine. Sois apaisé envers moi, Seigneur, qui suis un pécheur. Le péager s'en retourna justifié. Leur tradition disait que Moïse était monté sur la montagne le lundi et que, soi-disant, il était descendu le jeudi. Donc, à cause de cela, ils avaient ajouté deux jours supplémentaires de jeûne. Les disciples suivaient la même tradition, puisqu'ils étaient élevés dans cette tradition-là. Combien d'entre nous, nous faisons les choses par tradition? Le grand-père a dit cela, le noko a dit cela, dans notre tribu c'est comme ci, dans notre tribu c'est comme cela, dans notre famille c'est comme ceci, dans notre famille c'est comme cela. Mais quand vous regardez au fond, il y a là des sciences occultes qui sont mélangées à nos actions que nous faisons automatiquement par tradition. Ces traditions, nous les voyons en Europe, nous les voyons en Amérique, et quand vous fouillez quelque peu, vous allez voir que ça vient de quelques cultes païens occultes d'autrefois. Fuyez ces pratiques! Non, nous voulons quelque chose de nouveau. Nous ne voulons pas quelque chose de pollué du passé. Les disciples suivaient la même tradition comme les anciens. Mais cette tradition, ils la négligèrent dès qu'ils furent avec Jésus. Et c'est à cause de cela qu'on les attaque. Jésus semble les justifier en disant implicitement que son évangile est un évangile de joie. Voilà ce que Jésus leur dit. Mon évangile, c'est un évangile de joie, comme des noces. Et que pour eux, amis de l'époux, jeûner à une telle fête, à un tel moment, serait inacceptable. Voilà ce que Jésus leur dit en substance. En contraste, les rites païens sont tristes, les rites païens sont laids, les rites païens sont cruels, les rites païens sont impurs, les rites des traditions païennes sont terrifiants. Et ça, vous le savez, dans vos coutumes de tribus, de villages, etc., vous le savez, qu'y a-t-il de beau? Qu'y a-t-il de beau dans ces danseurs qui se trémoussent avec des masques sur la tête, des peintures, que sais-je? On appelle ça folklore, mais nous savons qu'à l'origine tout cela est occulte. Nous savons que toutes ces pratiques sont occultes. Nous savons que tout cela vient des ténèbres. Frères, sœurs, faisons attention. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce commandement est pour nous aujourd'hui, si nous voulons rentrer dans le nouveau. Comme une fête de noces, voilà ce que Jésus dit. Comme une fête de noces. Une fête de noces, c'est beau. Nous voyons la belle jeune fille parée de toutes sortes de choses, bien coiffée. Nous voyons le beau jeune homme bien habillé, suivant les coutumes, suivant les pays. Ceci se fait. Et c'est une fête. Tout le monde est bien habillé. Tout le monde est là avec le sourire. avec le sourire. Et si la maman ou la grand-maman a quelques larmes, c'est simplement parce qu'elle est très émotive. Mais ce sont des larmes de joie. Alors, c'est une fête. Telle est la description de la vie chrétienne que Jésus nous offre. Une fête. La vie chrétienne, ce n'est pas un fardeau. La vie chrétienne, c'est une fête. Alléluia. La vie chrétienne est une fête que Jésus donne. Voilà. Ça, c'est une idée nouvelle apportée par Jésus. Jésus compare toujours cette nouvelle vie à une fête de mariage. Vous m'entendez? Il compare cette nouvelle vie à une fête de mariage. Dans Matthieu 22, 2, il est dit là, « Un grand roi fit des noces pour son fils. » C'est Jésus qui parle et il donne des paraboles. Et il dit, « Un grand roi fait des noces pour son fils. » Dans Jean 2, 1, il dit encore, Il est écrit encore, « Il y eut des noces en Cana. » Jésus est venu à ses noces, vous le savez bien. Et c'est là qu'il a fait son premier miracle. C'est la Bible qui nous le dit, son premier miracle. Je ne crois pas à ces légendes qu'on raconte que quand Jésus était petit, n'est-ce pas, il fabriquait des petits oiseaux en terre glaise, il frappait des mains et l'oiseau s'échappait et s'en allait vivant. Ça, ce sont des légendes. Je crois à ce que la Bible nous dit. Et ce que la Bible me dit, c'est la vérité. C'est là qu'il a fait son premier miracle. Son premier miracle n'était pas de guérir un aveugle. Son premier miracle n'était pas de chasser les démons. Son premier miracle n'était pas de ressusciter les morts. Son premier miracle, c'était quoi? C'est d'abord d'être dans une fête de mariage, une fête de joie, une fête de réjouissance. Un, deux, son premier miracle était de pourvoir pour ce qui manquait dans la fête. Et qu'est-ce qu'il manquait dans la fête? Le vin. Et Jésus a changé l'eau en vin. Oui, c'est vrai. Jésus a changé l'eau en vin. Si c'est péché de boire du vin, eh bien dites que Jésus a péché. Et quand la Bible parle de vin, elle parle de vin. Et nous savons qu'il y a toujours un degré d'alcool dans le vin. 10 degrés, 11 degrés maximum dans le vin. C'est vrai. Mais Jésus aussi a condamné l'ivrognerie. N'oubliez pas cela. Il a condamné la passion de la boisson et de l'alcool qui détruit le corps. Et si pour vous c'est une tentation, mieux vaut ne pas boire. Voilà ce que je dis. Mais attention à votre jugement vis-à-vis des autres. Et je, attention de ne pas boire maintenant, parce que j'ai dit ça. Oh, la bonne excuse! Le pasteur Verneau a dit ceci. Le pasteur Verneau a dit cela. Je vous dis ce que la Bible dit. Mais je vous dis aussi ce que la Bible dit. Les ivrognes n'hériteront pas du royaume des cieux. Et Jésus a parlé des vierges folles, des vierges sages. C'est 10 vierges, 5 folles, 5 sages, 5 qui ont une provision, 5 qui n'ont pas de provision d'huile. Pourquoi? Parce qu'elles attendent, selon la coutume, selon l'époque, selon le temps, elles attendent que l'époux et l'épouse arrivent pour entrer dans la salle des noces. Les heures passent, elles s'endorment. Mais il y en avait qui n'avaient pas de réserve. Toujours est-il que Jésus parle encore des noces, là. Pourquoi? Parce que cette nouvelle vie à laquelle il nous appelle, c'est une fête! C'est une fête! Ce n'est pas comme la vie des pharisiens et des scribes. Oh non! Ésaïe 54, verset 5, il est dit, « Ton Créateur est ton époux. » Alléluia! Toute la Bible parle ainsi. Dans Osée 2, 18, il est dit, « Tu m'appelleras ton mari. » Tu m'appelleras ton mari. Jean-Baptiste était considéré comme l'ami de l'époux. Dans Jean 3, 29, il est dit, « Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est complète. » Cette joie qui est la mienne est complète. L'époux. Je suis la mouille de l'époux. Je suis témoin. Ma joie est complète. Voilà ce que Jésus est venu apporter. La note dominante de la nouvelle vie est la joie. La nouvelle vie que Jésus apporte est la joie. Connaissez-vous cette joie? Avec quel genre de disposition rentrez-vous dans cette nouvelle année? Avec la joie? Une joie de la chair qui passe et qui amène les larmes et la souffrance après? Ou après? Ou alors avec le bonheur, le vrai bonheur que Jésus offre? Comment? Comment? La note dominante de la nouvelle vie est la joie, une grande joie que la souffrance ne peut ôter. La souffrance n'est jamais une joie, c'est vrai. Et pourtant, Christ, à cause de la joie qui lui était réservée, a accepté la souffrance. Frères et sœurs, certaines fois, dans un premier temps, il y a un prix à payer. Une joie profonde qui ne dépend pas des possessions matérielles. Une joie profonde qui ne dépend pas des honneurs du monde. Une joie tranquille, oui. Ce n'est pas une joie exubérante qui saute et qui crie, mais une joie tranquille, une joie profonde, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Malgré que tout va mal, je suis heureux car je suis en paix avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Une fête de mariage, Jésus apporte quelque chose de nouveau. Ce nouveau est une joie qui demeure, une joie qui reste. Une joie qui ne part pas, une joie qui ne part jamais. La seule chose qui altère la joie, c'est le péché. Alors, s'il y a le péché, venez à la croix, confessez votre péché et votre joie sera restaurée. La religion des pharisiens et des scribes n'est pas joyeuse. Cette religion, elle lie des fardeaux insupportables sur les gens. Des fardeaux trop lourds. Et c'est ce que Jésus leur disait. Vous liez des fardeaux que vous ne porteriez pas vous-même avec le petit doigt. Vous liez des fardeaux insupportables sur vos auditeurs, sur les autres. Par leur rite, par leur routine contraignante et pénible, la joie n'y est pas. Non, l'homme qui la pratique gagne des mérites aux yeux des hommes, peut-être, des autres, peut-être, mais n'a pas de joie réelle. Jésus est venu pour les conduire, de cet esclavage religieux, dans une nouvelle perspective de promesses joyeuses, dans une nouvelle perspective d'une fête de mariage, en communion avec lui. La marche qu'il préconise est celle d'un service volontaire, d'un service accepté, d'une décision, résultat d'une décision personnelle. Donc la vraie liberté issue d'un choix consenti, voilà, une vraie liberté qui sort comme conséquence d'un service consenti, d'une volonté abandonnée entre ses mains. Dans Jean 4, 13 à 14, Jésus disait à la femme samaritaine, « Quiconque boira encore de cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante. » Jusqu'en vie éternelle. Tu bois à cette eau-ci, tu auras encore soif, tu devras encore venir, tu ne seras jamais satisfait. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu seras satisfait. Et ce sera une source d'eau qui jaillit en toi jusqu'en vie éternelle. Une paix, une joie communicative, si bien que ceux qui ont soif, lorsqu'ils viendront vers toi, pourront satisfaire leur soif. Car tu en auras assez pour toi et assez pour les autres. Les disciples de Jean peuvent jeûner. Eux, pour eux non plus, la religion n'est pas joyeuse. La religion, c'est l'annonce d'un jugement. Tel était le message de Jean-Baptiste. C'est le fruit de la colère. De la colère qu'on veut fuir. Fuyez la colère à venir. C'est la hache qui est mise à la racine des arbres a une rétribution à cause du fruit qui n'est pas bon. Ce n'est pas encore une vie débordante de joie qu'a apportée Jean-Baptiste. Elle le deviendra, oui, elle le deviendra quand ils rencontreront l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, désormais, le message de Jean sera transformé. Et Jésus reprendra ce message avec cette dimension de la paix, de la joie, du bonheur. Pas de joie avec le péché, mais joie et bonheur, parce que Jésus est venu ôter les péchés. Jésus, lui, c'est lui qui a pris nos péchés. Ce n'est pas Jean. Jean était le précurseur. Jean était l'annonceur de celui qui allait venir, mais il n'a pas ôté le péché. Il a porté le message de la repentance, mais aussi le message du jugement et de la condamnation. Oui, c'est vrai, de la colère. Oui, c'est vrai, de la rétribution. Mais Jésus est venu compléter ce message par le pardon et la grâce. Alléluia. Jésus, lui, c'est la compassion. Jésus, c'est le pardon. Jésus, c'est la réconciliation. Il ne condamne pas, ni ne juge. Il sauve de la condamnation. Voilà pourquoi il est venu. Tout est nouveau en lui. Son message est nouveau. Il est l'arc-en-ciel avant l'orage. Avant l'orage. Il est l'espérance. L'espérance. Il est l'alliance nouvelle. L'alliance nouvelle. L'abondance du péché est avalée par la surabondance de la grâce. Voilà le message de Jésus. Une bonne raison de chanter. La plénitude de la joie, de l'amour, le vrai amour. Voilà ce qu'apporte Jésus. Souffrance et joie sont opposés l'un à l'autre, vous allez me dire. Mais c'est à travers la souffrance, cette souffrance endurée par les autres, que la vraie joie est possible, car là est le salut du monde. Jésus a souffert pour nous, dans Hébreux 12:2, chapitre 12, verset 2, il est écrit, « Lui, Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, la honte, le rejet, mépriser l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà. En vue de la joie qui lui était réservée. Joie dans la souffrance, oui, dirais-je. Souffrance indicible, mais joie profonde. Car la victoire est au bout de cette route pénible. La victoire est au bout. La victoire contre Satan, contre le péché. C'est pourquoi il pouvait dire... Dans Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ma joie soit en vous. Jésus a dit ça avant la croix. Ma joie soit en vous. Voilà. Et que votre joie soit parfaite. Votre joie dépend de ma joie. Ma joie, je sais que je vais aller au supplice. Je sais que je vais souffrir, je sais que je vais mourir, je sais que je vais être rejeté, mais, au fond de moi, il y a une joie indicible, et je vous donne cette joie, car j'ai vaincu, j'ai écrasé la tête du serpent. Une joie comme une fête de mariage, le mariage de la terre et du ciel, quelque chose de nouveau, un avenir merveilleux à travers Jésus-Christ le Seigneur. Avec une telle joie en héritage, avec une telle joie que Dieu nous donne, comment est-ce que les disciples pouvaient-ils jeûner? Ils étaient avec l'époux. Le jour viendra, disait Jésus, où mes disciples jeûneront. Ils jeûneront bientôt, l'ordre ancien passera, faisant place à un ordre nouveau. À la nouvelle alliance. Mais le promoteur des choses nouvelles payera le prix par sa mort. Alors, en ce jour-là, ils jeûneront, ses disciples. La nourriture perdra de sa saveur pour eux. Ils pleureront pour l'époux, qui leur sera enlevé à cause du péché. Le jeûne sera alors l'expression de l'âme. Tristesse, oui, mais tristesse qui se changera en allégresse devant le tombeau vide. Alléluia. Alléluia. Les hommes s'attachent à la formule, à la forme, et non à l'esprit. Si la forme est là, sans l'esprit, tout est vain. Des cymbales qui retentissent, c'est la Bible qui nous dit ça. Du bruit qui ne sert à rien. Tout est vain. Si l'esprit est là, plus besoin de forme. Plus vous voyez de forme, d'artifice, de pompe dans une église, sachez que l'esprit n'est pas là. Alors, on a besoin de le remplacer par des pompes, par une façade, par toutes sortes de choses qui viennent de l'homme. Mais si l'esprit est là, pas besoin de forme. Bientôt, les religieux traditionnalistes diront, Matthieu 12, 2, « Voici que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Ils diront encore, dans Marc 7, 5, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» En réalité, voici ce qu'ils disent. « Par quel droit brises-tu la tradition des anciens ?» De quel droit as-tu de vouloir faire différemment de notre coutume religieuse, de ce que nos anciens ont établi ? Jésus.